Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 1er juillet 2022. Tous les journaux le disent, la plupart des grands titres le mentionnent. On vient de finir le pire semestre de nos vies. Pour être honnête, c'est plus que nos vies, mais comme on dit que l'on a plus vu 6 mois aussi pourris depuis 62, pour moi c'est une vie. Alors on ne va pas revenir sur le sujet puisque tout le monde a son opinion, tout le monde a un avis sur la suite et nous avons déjà parlé hier du fait que ça devrait aller mieux dans 6 mois. Sauf qu'il ne faut jamais oublier qu'actuellement 6 mois c'est une vie. Le problème c'est qu'en dehors des marchés, il y a une nouvelle bien plus terrible, bien plus angoissante que le reste. On peut être angoissé par l'inflation, terrifié par la hausse des taux, en pleine dépression parce que les sociétés sont en train de réviser leurs projections de revenus pour les 36 prochains mois. On peut envisager de changer de métier et d'aller ouvrir une maison d'hôte en Ardèche ou ailleurs. On peut avoir envie d'entamer une thérapie parce qu'on entend dire un peu partout que nous sommes en train d'entrer dans l'hiver des crypto-monnaies. Ou alors, notre désir le plus profond peut être de rendre les armes, d'acheter un bout de terrain pour cultiver nos propres carottes et de devenir vegan. On pourrait même avoir envie de se mettre en PLS juste parce qu'on ne supporte plus l'idée de voir la Fed monter les taux à la fin du mois. Sauf que l'on oublie toujours qu'il y a pire. Bien pire. En effet, tous les journaux le relayent et ceux qui ne l'ont pas encore fait vont le faire. Il faut s'attendre à voir des éditions spéciales sortir dans les kiosques, des émissions spéciales sur CNBC, la couverture du Barron's de la semaine remaniée et la fabrication spéciale d'un nouveau jouet à thème dans le Pif Gadget. Rendez-vous compte, Elon Musk n'a pas tweeté depuis 9 jours. Et ça, si ça, c'est pas de la vraie angoisse, je ne sais pas ce que c'est. Personnellement, depuis que j'ai appris ça, j'en dors plus la nuit. Heureusement, j'ai appris ça ce matin et j'avais déjà fini de dormir. Mais quand même, donc les marchés se font défoncer et la plupart des analystes sont de sortie pour nous expliquer que ça sera pire avant d'aller mieux. Toutes les statistiques le disent et toutes les analyses du passé le confirment. Si on se projette dans 6 mois, ça devrait aller mieux. Sauf qu'avoir une vision à 6 mois dans un marché qui est capable de changer d'avis 8 fois entre le dessert et le café, c'est un peu comme demander à quelqu'un ce qu'il a vraiment envie de manger pour le déjeuner du 1er mars 2034 et dans quel restaurant il voudrait aller manger. Quoique même cela ferait plus de sens qu'investir à 6 mois actuellement. Autrement, l'inflation ne montre pas de signe de faiblesse. Je vous fais grâce de la liste des chiffres publiés récemment, mais en gros, rien n'a changé depuis le mois dernier, ce qui laisse supposer que le prochain CPI ne devrait pas montrer plus de faiblesse non plus. Donc, la Fed ne devrait pas monter les taux de moins de 0,75%. Les indices viennent de terminer leur quatrième séance de baisse consécutive. Le pétrole s'est fait éclater hier parce que les experts envisagent une destruction de la demande à cause de la récession qui arrive, ou qui n'arrivera pas, selon quels experts vous écoutez. Hier soir, Micron nous a annoncé que la demande des semi-conducteurs commençait à ralentir et leurs prévisions pour l'avenir donnent envie de se suicider en se gavant de Nutella jusqu'à que mort s'en suive. La plupart des chiffres trimestriels qui sont publiés sont interprétés négativement par le marché, laissant supposer que la saison des résultats qui nous attend sera à peu près aussi agréable à vivre que ces instants où vous êtes dans l'avion et que le pilote vous dit de ne pas regarder les deux réacteurs qui sont en feu sur l'aile droite. Et puis, Nouriel Roubini vient de publier son dernier article économique et il nous le confirme, les actions peuvent encore chuter de 50%. Bon, à noter que cette toute dernière information pourrait bien être la meilleure de toutes puisque la dernière fois qu'il a annoncé une chute de 50% au fond du trou de la pire crise économique de ces dernières années, nous étions à 666 sur le S&P 500 et que depuis nous sommes remontés de près de 400%, même compte tenu de la baisse de 20% depuis le début de l'année. Mais en gros, tout ce qu'il faut retenir et tout ce qui semble angoisser certains experts, c'est de ne s'être rendu compte qu'Elon Musk n'avait pas tweeté depuis 9 jours. Et que ça fait plus de 5 ans que ça n'était pas arrivé, que même quand il ne tweete pas lui-même, il répond en général à d'autres participants au réseau social. Mais au moins il est là, alors que là, depuis 9 jours, rien. Pas un coup de fil, pas une carte postale, pas un tweet, rien, la zone, l'angoisse, la peur nous prend à la gorge. Mais que se passe-t-il? Où est-il? Il n'a quand même pas pu partir sur Mars sans nous prévenir. Il n'a pas pu nous abandonner, nous, pauvres suppôts de la finance internationale. Qu'allons-nous devenir? Et le pire dans tout cela, c'est que l'on ne sait rien. La seule chose qu'on a à se mettre sous la dent, c'est que selon des personnes proches de lui, il est en train de gérer des problèmes personnels. Bon, il est clair que gérer son ex-fils devenu sa fille après son opération et qui en plus ne veut plus lui parler, ça prend du temps. Mais le marché commence à s'angoisser, la peur nous étreint. Sans compter que nous en sommes au 65e jour de captivité de Twitter et qu'Elon Musk n'a toujours pas libéré les actionnaires de la société qui sont toujours bloqués dans leur investissement. Du coup, maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire le bilan, même si on l'a déjà fait depuis longtemps et que ce n'est pas parce que nous sommes le 1er juillet que ça va changer l'instant présent. Sans compter que lundi, c'est congé aux USA pour cause de fête de l'indépendance. Il ne va donc pas falloir s'attendre à de grandes manœuvres avant la semaine prochaine. Par contre, d'ici là, on a largement le temps de se faire des grandes théories sur à peu près tout ce que l'on veut tant qu'on n'envisage pas de réfléchir plus loin que la publication des chiffres de l'emploi qui auront lieu vendredi prochain, 8 juillet, et ensuite pas plus loin que les chiffres de l'inflation qui viendront la semaine suivante. Au moins là, on pourra vraiment se dire que si ça ne bouge pas, on n'a peut-être pas fini de creuser sur les indices. En tous les cas, je ne sais pas ce que valent les fondamentaux économiques et quelles sont les conclusions que l'on peut avoir envie d'en tirer, mais ce que je sais, c'est que quand je vois les graphiques des indices, que quand je vois la réaction des investisseurs aux chiffres du trimestre de Nike, de Walgreens ou encore de Bed Bath & Beyond, pour qui nous sommes carrément en train de parler de faillite, et quand je vois la peur dans le regard des gens quand tu leur dis que la Fed va parler fin juillet, j'imagine assez mal que l'on ne retourne pas encore une fois chercher les plus bas. Et il est clair que les déclarations de Roubini qui envisagent la fin du monde économique telle que nous le connaissons, avec une espèce de situation de récession dépressive dans une période de stagflation agressive, et quand on lit que la quasi-totalité des experts en pétrole envisage un baril à 180 avant l'hiver, et qu'en plus on va devoir aller couper du bois en forêt pour se chauffer à Noël, je crois que l'on peut dire que le bottom final, c'est pas pour tout de suite. Et puis, n'oublions pas que Musk n'a pas tweeté depuis 9 jours. Ce matin, c'est une seule couleur rouge partout en Asie. C'est pas des grosses chutes, vu qu'on est ici entre 0,15% en Chine, 0,6% à Hong Kong et 0,9% à Tokyo. Mais en regardant les futurs qui s'enfoncent à toute vitesse, alors que les ricains sont à peine couchés à New York, on peut craindre un début de trimestre merdique à souhait, ce genre de vendredi que l'on préférerait ne jamais devoir vivre. Le hedge contre l'inflation, le truc qui est censé nous permettre de rester riche, ce machin qui brille et qui attise toutes les convoitises, l'or est en train de casser ce qui lui reste de tendance haussière. Pour l'instant, le métal jaune est toujours au-dessus des 1803, mais ça devient presque préoccupant, sachant surtout que tout le reste est en train de partir en vrille. Le pétrole est à 106$ et on parle de destruction de la demande, de ralentissement en cas d'inflation. Et en même temps, il y a une conviction générale comme quoi c'est l'opportunité d'une vie. Puisque tout le monde sait que le baril sera à 180 dans 5 mois et 3 semaines. Un peu comme le Bitcoin à 100 000 pour Noël. Reste juste à déterminer lequel des Noëls de ces 12 prochaines années. D'ailleurs, hier, le Bitcoin et toute l'équipe des cryptos se sont à nouveau fait une frayeur puisque tout s'est effondré, qu'il est allé chercher les 18 600 avant de remonter parce qu'il n'y avait pas fait de nouveau plus bas. Ce matin, le Bitcoin, le BTC, est de nouveau au-dessus des 20 000$, mais on a eu chaud aux fesses. Du côté des nouvelles du jour, on a comme l'impression que le monde entier s'est donné le mot pour qu'il n'y ait rien à se mettre sous la dent à l'aube du week-end. On a bien eu Biden qui nous a réchauffé un discours à propos du fait que les USA sont plus forts que jamais, qu'ils sont préparés mieux que jamais à mener le monde libre à la liberté, la croissance économique et à fourguer des acquis à tout le monde. Papy Biden a également insisté sur le fait que l'inflation est plus basse aux USA qu'à l'étranger. Oui, alors disons que ça dépend comment on définit l'étranger, hein, parce que si l'étranger c'est la Hollande, l'Angleterre, l'Espagne, le Brésil, la Russie, l'Argentine et la Turquie, alors en effet les USA ont une inflation moins forte qu'à l'étranger. En revanche, si l'étranger c'est aussi la Chine, l'Arabie Saoudite, la Suisse, le Japon, l'Indonésie, l'Australie, la Corée du Sud, Singapour, la France, l'Afrique du Sud, l'Inde, l'Italie, l'Allemagne, le Mexique, le Canada et l'ensemble de la zone euro, alors c'est une gigantesque connerie parce que l'inflation y est inférieure qu'aux USA. Mais comme Biden est convaincu que nous sommes en 1974 pendant la crise pétrolière, on ne parle pas forcément du même étranger et des mêmes chiffres de l'inflation, ce qui rend la compréhension entre lui et le reste du monde assez complexe. Si les nouvelles sont maigres, on notera quand même que le bois a repris 7% durant la séance d'hier parce que, je cite, les taux hypothécaires ont baissé de 0,10% de 5,81 à 5,71. On sent carrément la tendance baissière qui se dessine là. Je me demande quand même si la spéculation sur les matières premières ne commence pas à faire plus de mal que de bien. Mais bon, peu importe, en ce moment, on analyse ce premier trimestre pourri en se demandant pourquoi on l'a pas vraiment vu venir. On se projette dans le futur, mais pas trop loin, les 18 prochaines minutes sont amplement suffisantes. Et puis on se demande où se trouve Elon Musk, ce qu'il fait et pourquoi il ne veut plus nous abreuver de ses tweets passionnants. Pour le moment, les futurs sont donc au fond du bac, en baisse de 0,8%. Nous attendrons attentivement une vague de PMIs en Europe, ainsi que le CPI de la région euro. Et puis ce soir, nous aurons l'ISM Manufacturing PMI aux USA, que l'on regardera attentivement, espérant y trouver un semblant de bonne nouvelle qui ne laisserait pas penser trop fort que le consommateur est en train de baisser les bras aux USA. J'ajouterai encore une fois que les graphiques du DAX et du CAC sont dans des zones qui font un peu peur. C'est un peu comme moi quand on me demande de monter en téléphérique en haut du Mont Blanc. Je sais que ça va mal se terminer. En tous les cas, j'espère sincèrement que les indices européens vont tenir ces niveaux. Sinon, il ne restera plus qu'à espérer qu'ils ont mis leur parachute. Pour le reste, vous constaterez que ma chronique est assez négative et dépressive. Même si l'on supprime le fait que Musk a disparu, je tiens à préciser que je ne suis pas entré en dépression, mais que je me suis aperçu que quand je deviens très négatif dans mes chroniques, les marchés remontent. Alors je m'efforce de peindre le diable sur la muraille pour offrir tout mon soutien technique aux bourses mondiales. En ce qui me concerne, il me reste à vous souhaiter une excellente journée, un très bon week-end. Pour ma part, je serai en vacances les deux prochains mois, mais j'écrirai quand même la chronique tous les matins. Et il y aura également une vidéo Morning Bull live sur la chaîne Swissquote francophone tous les matins. Je vous retrouve donc lundi pour de nouvelles aventures estivales. Et à lundi, en espérant retrouver Elon.